Bonjour, vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau et les auteurs du Maine et du Loir sur Radio Alpa 107.3. On ne le répétera jamais assez pour ceux qui prennent la radio comme ça en cours de route. La librairie Bulle est devenue au fil des années un élément du patrimoine sartois, je pense. Au même titre que les remparts ou la cathédrale.
Madame Ned.
Si vous trouvez que j'exagère, je vous répondrai simplement qu'elle est une des premières de France dans la catégorie bande dessinée. D'ailleurs, Samuel Chauveau ne va pas tarder à nous le confirmer. Samuel Chauveau.
Bertrand.
Bonjour.
Bonjour.
Vous confirmez ce que je viens de dire? Quel est le classement national exactement? Parce que moi, on m'avait dit que vous étiez dans les 5 premières librairies.
C'est un portrait un peu flatteur, mais nous sommes, je pense, même sur le podium en librairie spécialisée.
Ah, à ce point-là?
Oui, tout à fait.
Donc, du coup, ça me fait penser à une ville comme Paris. Ça voudrait dire que finalement, une librairie comme La Bulle serait presque devant des libraires de bande dessinée parisiens.
Ah oui, ça, par contre, je te le confirme sans problème. C'est pas forcément une question de ville, c'est une question aussi d'implantation dans ta ville. Alors d'abord Paris, il y a beaucoup de librairies spécialisées bande dessinée. Paris c'est la capitale, c'est énorme. Après, sur une ville comme Le Mans, les éditeurs sont assez surpris de voir effectivement le chiffre réalisé par un libraire dans une ville moyenne de province. Moi j'ouvre en janvier 1983, peut-être que je devance un peu.
Non, mais c'est pas grave.
et là, Bertrand, incroyable.
Justement, c'était l'historique de la librairie, c'était prévu.
Voilà, oui. Et bien, en janvier 83, c'est pratiquement à peine 200 nouveautés qui sortaient dans l'année, c'est-à-dire vraiment pas assez pour faire vivre un libraire, et je te le confirme.
C'était pas évident.
C'était pas vraiment
évident. Tous les jours.
Je n'étais pas non plus très très bon commerçant, j'avais à peine 20 ans, et toute la librairie était prête pour ouvrir en décembre. C'était prêt, le lieu était complètement investi, les albums étaient là, et comme je n'étais pas forcément, moi j'avais une idée, omnubilé par cette idée, c'est de dire, je vais carrément laisser passer tranquillement les fêtes de fin d'année pour ouvrir sereinement en janvier. Et j'ai donc laissé passer le plus grand moment commercial de l'année pour ouvrir le 3 janvier 83.
C'était pas forcément une bonne idée.
Ah, pas vraiment, ça te montre un petit peu le niveau qui n'était pas tout à fait professionnel. Mais, écoute, hein, en tout cas, c'est cette date qui a fait que ben, je suis venu à la vie alors, dans le vieux Mans.
Par contre, alors, effectivement, l'historique, il est important, parce que c'est surtout là-dessus que je voulais axer l'émission, justement. Donc, je reviens encore en arrière. Est-ce que notre ami Samuel Chauveau est tombé dans la marmite de BD tout petit? Est-ce plus arrivé plus tard? Est-ce que c'est cette raison-là qui t'a amené à ouvrir une librairie?
Moi, j'avais un père qui était fou de littérature, de la province du Maine, régionaliste. Et en fait, lui, la bande dessinée n'était pas son genre, mais je sais que j'allais souvent en librairie avec lui. Et puis, il m'a fait découvrir la bibliothèque Bérangère d'origine paroissiale dans le vieux Mans. Mais ce qui est fou, c'est que dès que vous dites paroissiale et bande dessinée, vous pouvez penser que c'est anachronique. Et absolument pas, puisque ces dames, eh bien, elles aimaient la bande dessinée et elles achetaient de la bande dessinée. Et dans leur bibliothèque, c'était le plus grand fonds de bande dessinée de la Sarthe. Eh bien, moi, j'ai découvert aussi cette bibliothèque. J'y allais pratiquement à toutes les ouvertures. Et pour répondre à ta question, je n'ai pas de souvenir de ne pas me voir avec un album, un illustré, comme on peut le dire. Hein. Ce que j'ai eu peut-être très rapidement dans les mains, mais j'arrive pas à trouver une date proprement dite. Voilà, ça a toujours été ça. Je sais pas pourquoi.
On fait une petite pause musicale. We'll be right back. donc, je reviens à cet historique. 1983, c'est le démarrage. À cette époque-là, bon, ça a été un petit peu... Il y a eu quelques petites erreurs stratégiques, mais bon, ça s'est finalement pas si mal passé. C'était dans le Vieux-Mont, hein, il faut le rappeler.
Complètement. Mais moi, j'étais arrivé dans le Vieux-Mont parce que j'étais donc jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent. La banque m'avait suivi un petit peu, mais en tout cas, les pas de porte que moi, je lorgnais, sur lesquels je lorgnais, plein centre-ville, évidemment, j'étais quand même pas non plus idiot, c'était dans des rues très passagères, mais évidemment, les pas de porte, comme on dit, ou loyers en plus, étaient extrêmement élevés, et donc je n'avais pas les moyens, et j'avais pratiquement laissé tomber. Hein. Moi, j'étais encore à la fac, j'étais encore pion, je ne savais pas quoi faire un petit peu après une année de droit, une année de lettres, j'étais vraiment pas dans l'errance, mais j'avais du mal à me projeter sur ce que pouvait être mon avenir, et donc c'est là où j'ai eu cette idée, fréquentant d'ailleurs les librairies généralistes où, avec l'argent que j'avais du Pionica, je dépensais l'intégralité de mon salaire chez des gens comme Doucet, chez des gens comme Latanor, etc. Et c'était à l'époque plus de 4000 francs par mois. Et un jour, une employée de Doucet, je m'en souviendrai toute ma vie, m'a dit « Mais Samuel, tu dépenses beaucoup d'argent, on est content et tout, mais t'as pas pensé, pourquoi pas, à en faire ton métier et ouvrir une librairie ?» Et je pense que, ne sachant pas trop quoi faire, cette réflexion est restée un petit peu aussi ancrée, et d'où cette idée. Mais eh bien, je me suis trouvé à aller du côté du Vieux-Mont, parce que le centre-ville étant hors de prix, je suis tombé sur cette boutique, rue Saint-Honoré. C'était des tarifs tout à fait acceptables, et je me suis dit, je démarre ici, et dès que j'ai pris un peu d'assurance, je m'en vais, et je retournerai dans l'hypercentre. Et puis, le Vieux-Mont, Bertrand, une fois qu'on est happé par ce Vieux-Mont, on est jeune, il y avait une vie encore tellement incroyable.
C'était déjà une ville de bande dessinée.
Mais c'était déjà une ville, exactement, tout à fait. Et puis surtout, c'était encore la passation de l'ancien monde vers le nouveau. Donc il restait encore beaucoup de commerces de bouche. Il y avait les Beaux-Arts, il y avait toujours évidemment ces bars qui ne cessaient d'augmenter. Il y avait vraiment une vie de quartier qui était effervescente, qui était remarquable.
Alors, une question peut-être, parce que bon, depuis, est-ce que tu pensais que tu arriverais à ce stade-là quand même à cette époque?
Oh non, moi j'avais pas de stratégie.
Parce que là, c'est quand même.
Et écoute, vraiment, la distance, hein. De toute manière, de par ce Vieux-Mont, ça a été très formateur. Certes, je n'étais pas formé non plus à la gestion, si je n'avais que cette passion pour la bande dessinée. Mais comme, finalement, on n'était pas dans cette période si moderne, si qui avançait à une vitesse invraisemblable. Donc, j'ai appris sur le terrain, j'ai découvert, et pour me faire connaître, puisque j'avais décidé de rester dans le Vieux-Mont, il fallait trouver des choses, il fallait trouver des moyens,
créer des événements. Des
choses. Et c'est là où, effectivement, faire venir déjà des auteurs a été
pour commencer,
pour essayer de faire venir les gens découvrir ces auteurs. Ça, par contre, je l'ai eu très vite. Et puis après, ça a été la création qui a commencé aussi à se développer. 200 nouveautés par an sur 83, 84, ça a augmenté un peu. Ça permettait aussi de faire en sorte que ton métier de libraire devienne aussi plus vaste, plus avec des univers qui commençaient à se développer. Donc, c'était le plein essor de la bande dessinée.
Et c'est combien aujourd'hui de nouveautés chaque année?
Eh bien, pour te dire, c'était aussi le moment où la plupart des libraires ont ouvert en France. Il n'y en avait que, je crois qu'il n'y avait même pas 10 librairies spécialisées en France avant les années 80. Et dans ces fameuses années 80, 82, 83, 84, etc., c'est là où ça a explosé. Cette spécificité a explosé. La création, comme je te le disais, elle ne cessait d'être exponentielle. Et nous avons même passé à un moment le cap des 5500 nouveautés par an.
C'est
autant te dire que nous étions passés dans une autre dimension, une autre époque, mais ce qui devait être d'ailleurs de plus en plus compliqué, puisque ouvrant sur 75 mètres carrés, avec peu donc d'albums, ça allait, mais au fur et à mesure de cette explosion, ça devenait de plus en plus compliqué. L'objet également, j'étais fou de trois dimensions et de tout ce qui concerne les personnages en plomb, en résine, et là, deuxième un petit peu je vais pas dire comment pourrait-on dire, mais il s'est libéré une boutique à côté de la librairie.
Oui, je me souviens de ça.
Bébert,
juste en face.
Et non, d'abord à côté, Bébert le tapissier, qui a pris sa retraite. Et j'ai pris ce deuxième pas de porte pour exposer tout ce qui était du domaine de l'objet en bande dessinée. Donc, il n'y avait personne à l'intérieur, puisque je n'avais pas les moyens d'avoir un employé. Donc, on mettait tous les objets derrière les vitrines et les gens regardaient, venaient nous demander et nous allions chercher l'objet dans cette vitrine. Et donc là, ça commençait un petit peu à se développer dans la rue Saint-Honoré. Et puis par la suite, tu as raison, en face, eh bien, s'est libéré également un autre pas de porte. Je l'ai pris, nous avons continué à mettre les objets dans cette petite galerie. Et dans le fond, il y avait aussi une petite pièce pour la réserve. Et puis à la fin, j'ai pris carrément un appartement, le quatrième loyer, pour pouvoir réceptionner les colis, ouvrir les colis, ramener eh bien, tous ces albums dans la librairie pour repasser dans la réserve d'en face. C'était devenu un truc de malade.
Et donc, c'est 2013 qu'il a fallu absolument trouver quelque chose de plus grand, s'est libéré une place, ma foi, proche de la place de l'Éperon. Pour ceux qui ne savent pas encore, on ne sait jamais, il y a peut-être des Sartois qui le savent.
Bien sûr.
Pas.
Oui, oui. Et puis,
rue
aussi,
de la Barillerie.
Voilà, mais aussi une histoire d'amitié, parce que j'en terminerai juste avec ce petit historique. Ouais. C'est que moi, ouvrant en 83, deux, trois ans plus tard, arrive un jeune architecte à côté, voisin, et qui deviendront par la suite un ami. Et nous avons fait toute notre vie professionnel l'un à côté de l'autre. Lui, eh bien, il a aussi grandi. Il avait aussi un cabinet d'architecte qui n'a cessé de se développer. Son fils était devenu archi, mais son immeuble obsolète, trop petit, était dans la même configuration que la librairie. Et lorsqu'il m'a dit « je vais devoir bouger du vieux Mans, car nous n'en pouvons plus ». Et là, je me suis dit, s'il s'en va, ben moi, c'est quand même une histoire d'amitié qui peut se terminer. Donc, on s'est dit, OK. Ça a été aussi une... Et puis aussi, ma compagne qui me dit, mais tu sais, tu connais tellement d'auteurs, tellement de choses. Dans cette librairie, tu vas y mourir. Ce serait bien que tu mettes un petit peu, peut-être, pourquoi pas, en avant tout ce que tu commences à avoir acquis pour peut-être un autre lieu qui serait quand même beaucoup plus grand. Et c'est le premier déclic. Et avec cet ami architecte, on a commencé à regarder des lieux qui seraient capables eh bien, d'accueillir à la fois un cabinet d'architecture et une librairie de bande dessinée. Et puis un jour, on est tombé sur ce lieu que les vieux Manceaux connaissaient.
C'était Troncoso, un garde-meuble qu'il y avait là.
Garde-meuble et déménagement, abandonné depuis plus de 30 ans. Et d'ailleurs, moi, je n'avais même jamais pénétré derrière les barrières de ce lieu. Et c'est au moment où il appartenait à la mairie. Quelqu'un de la mairie vient nous ouvrir la porte. On passe derrière. Et alors que nous avions visité énormément d'autres lieux, on ressortait avec Rémi, l'architecte, en se regardant, en disant non. Et puis on était contents, on retournait dans le vieux Mans. Et là, on ouvre, on fait la visite. Il ne s'est pas passé une demi-heure. Et là, on était même avec une tête un peu...
Tilt.
Tout de suite, il y avait tout ce qu'il fallait. Et on était à peine content parce qu'on savait que là, on n'avait pas... C'était dans un état invraisemblable. Mais il y avait tout. Lui, Archie,
vous
et même
aviez déjà
moi,
une vision
toute
de...
la vision, elle s'est faite en une heure. Et moi, comme il me montrait ses projets d'architecte, moi, je lui montrais la bande dessinée. On échangeait plein de choses. Et là, on était en adéquation totale. On s'est dit, on ne peut pas refuser ça. Certes, ce sera un projet très lourd, ce sera un projet un peu dangereux financièrement, mais il y a tout. Et c'est comme ça que cette idée est partie. Nous étions en fin 2011-2012 et le projet s'est lancé.
En 2013.
Voilà, pour une ouverture eh bien, en septembre 2013.
Et ça fait, il y a combien de surface
Ben c'est pratiquement 300 mètres carrés, mais sur deux niveaux, avec une réserve, avec une cave.
Mais ce qui fait 600 mètres carrés en réalité
Réellement, l'ensemble, c'est vraiment à peu près 300 mètres carrés.
Belle aventure hein, quand même. Hein. Et est-ce que c'est indiscret de te demander, en gros, en moyenne, combien vous vendez de livres chaque année? dans cette librairie.
Alors là, c'est dommage c'est que Philippe ne soit pas là. Non, c'est parce que je ne comme je te le disais, pas de stratégie. Je sais certes le chiffre d'affaires que l'on fait, mais
non,
c'est vrai que
je ne vais pas demander le chiffre d'affaires.
Non, mais tu vois, mais c'est pour te dire que
c'est réservé aux comptables et aux fiscaux.
Suis... Oui, oh, non, non, il y a aucun secret. Mais ce sont des centaines de milliers. Hein. Je pourrais te donner le chiffre un tout petit peu plus tard, mais oui, c'est assez surprenant. Lorsque je te donnerai ce chiffre, c'est presque même moi, ça me stupéfait toujours, quoi, tu vois. C'est par centaines de milliers, oui, tout à fait.
Ah, bravo, hein. Franchement, là, ah oui. Vous êtes, tu es courageux et téméraire, car depuis quelques années, tu t'es lancé dans tes propres productions. Je pense à Tintin, qui a été, alors ça a fait du bruit, mais aussi l'Histoire du Mans, et puis il y a d'autres projets, je viens de le voir tout à l'heure, et il y en a encore d'autres. Et alors, y a, ça, c'est ça aussi. Ben l'imagination, oui. La création, l'esprit créatif, ça joue un rôle aussi pour qu'une librairie fonctionne bien.
Oui, mais ça, tu vois, c'est aussi un petit peu avec le fait de grandir, de mûrir, de voir qu'il n'y avait pas... Et puis moi, ce métier me passionne tellement... toujours autant, même au bout de 39 ans. Après, j'ai toute une équipe maintenant. Moi, j'ai démarré pratiquement tout seul. Après, il y a eu ma mère un petit peu. Et puis après, dans l'ancienne librairie, nous avons terminé à 4 postes et demi à peu près. Là, nous sommes 14. Donc, c'est toujours aussi, comme tu le disais, être imaginatif pour, pourquoi pas, créer aussi du chiffre d'affaires, mais du chiffre d'affaires qui, pour moi, semblerait intelligent. Voilà, c'est ne pas faire du business pour du business. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que ça a été, je ne sais plus d'où est venue cette première coédition. Et puis il y a eu ce fameux Tintin qui a été tellement incroyable avec Serge Bertin, une aventure humaine là aussi invraisemblable.
La passion du patois sartois aussi. Hein.
Voilà, et mêler Tintin avec le patois sartois, qui est mon département, ça a été une aventure complètement invraisemblable. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, je continue à avoir essayé de trouver des idées. Il y a eu aussi cette remarquable histoire de mettre Le Mans en bande dessinée. Là aussi, c'était les deux plus gros projets pour moi, vraiment. Le Tintin en sartois et puis l'histoire du Mans en bande dessinée, ça a été des trucs incroyables et qui a débouché là aussi sur des ventes, mais que personne ne pouvait penser.
Imaginer. Hein.
Quand on me dit, mais tu vas mettre en danger la librairie, parce que quand on fait 4000 Tintins et qu'il faut payer tous les droits à Moulinsart, etc., c'est bien quand vous les vendez tous, et ça a été une opération finalement financière intéressante, mais quand vous les avez sur le dos et que tout le monde me dit, mais t'en vendras jamais, peut-être 500, peut-être 1000, et qu'on avait vendu en moins de 3 mois l'intégralité du tirage. Pareil un petit peu pour Le Mans, le tome 1, où nous sommes maintenant à plus de 13 000 volumes vendus que sur la librairie, en revendant un petit peu à quelques collègues. Mais c'est vrai que ça, c'est devenu quelque chose d'important. La prochaine coédition, et c'est celle sur Renault, à travers la vie de cet industriel, l'usine de Renault du Mans ayant été certainement la deuxième en termes d'ouvriers usine d'importance, on fait cette coédition où il y a un épais dossier sur ce que a représenté l'usine Renault du Mans. Voilà. Et puis maintenant, c'est pratiquement 3-4 coéditions dans l'année.
Là, ça veut dire que l'aspect historique, ça c'est pareil, ça plaît beaucoup aux Sartois.
Mais oui,
ils aiment bien qu'on parle de l'histoire de leur département,
exactement,
de leur ville.
Et ça, je tiens ça de mon père qui m'avait un petit peu instruit là-dessus.
On écoute les Chevaliers du Ciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Tanguy et la Verdure. Alors là, du coup, ça va peut-être réveiller des souvenirs. Il y avait eu une série télévisée et puis il y a eu un film aussi qui avait très bien marché, ce film.
Et puis cette fameuse chanson de Johnny Hallyday.
Et la chanson de Johnny Hallyday. En même temps, c'est un hommage à Johnny. Voilà, on écoute ça et on se retrouve après.
Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon, ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à de l'idéal.
À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et radioalpa.com.
Voilà, on reprend après avoir entendu Les Chevaliers du Ciel de Johnny Hallyday, paix à son âme. Une petite question personnelle. Samuel Chauveau tient une librairie de bande dessinée. Il est passionné de bande dessinée. Ça y est, on l'a tous compris maintenant. Hein. Mais est-ce qu'il a, ce monsieur, des goûts personnels? Est-ce qu'il y a des tendances, des choses que tu préfères qui sont pour toi absolument le sommet de la bande dessinée? Je ne sais pas.
Oh non, non. Non. Là je ne saurais plus comment te dire. J'ai une culture classique, évidemment, née en 62. De toute manière, comme je te le disais au début, une production qui n'était pas non plus énorme, puisque c'était la presse qui était reine et finalement les albums n'étaient pas légion.
Oui, la bande dessinée, c'était dans la presse.
C'était dans la presse. J'ai été évidemment élevé dans ces grands classiques. Aujourd'hui, essayer de trouver, c'est tellement différent. La BD a tellement aussi évolué parce que j'aurais pu dire tout à l'heure aussi qu'il n'y avait finalement qu'une seule famille à l'époque. Aujourd'hui, avec cette production dont on a évoqué la quantité, c'est aussi plein de familles nouvelles. C'est comme s'il y avait eu des cousins, des cousins germains qui venaient se greffer, ouais. Et avec des familles qui sont invraisemblables. Le roman graphique, la BD historique.
Oui, c'est ça, c'est ça.
La BD d'adaptation littéraire. Aujourd'hui, toutes les thématiques, tous les genres.
On a maintenant du dessin avec du texte. On a aussi même des photos qui apparaissent parfois dans les bandes dessinées.
C'est tellement d'une création invraisemblable que. Et puis j'ai lu des choses invraisemblables depuis ces 10 dernières années que j'aurais du mal à dire c'est ça qui est. Non, j'ai même pas envie d'y penser, tu vois.
Alors, hors librairie, on en a déjà un peu vaguement parlé, parce que tu disais, pour me faire connaître, il fallait que j'invente un peu des choses, des dédicaces, des objets. Et là, c'est là que j'ai remarqué ça, c'est qu'en dehors de la librairie, maintenant, tu as énormément développé des choses comme les expos, les dédicaces, bien évidemment. Il y a aussi des dessins collector propres à la librairie Bulle, c'est quasiment l'éditeur là, de bande dessinée. Et puis, il y a aussi des éditions de luxe. J'ai vu ça sur le site. Si les gens vont sur le site, ils vont voir ça. Il y a des éditions de luxe, des éditions anciennes. Et puis il y a des figurines, des affiches. Alors ça,
ça c'est l'univers de la bande dessinée. Et comme
j'en oublie déjà.
Non, tu as tout à fait bien cerné la chose. Et ça fait partie de mon histoire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes libraires aussi qui ont ouvert récemment. Il faut avoir les moyens aussi, puisque tous ces objets, par exemple, c'est de l'achat ferme. Tu ne peux pas les retourner. Donc si tu en achètes trop et que tu ne les vends pas, c'est beaucoup d'argent immobilisé. Mais moi, comme j'ai fait partie aussi un peu de l'histoire de l'objet, puisqu'il y en avait pas beaucoup, et ça c'est vraiment développé dans les années 80, d'où ces vitrines aussi dans le Vieux Mans, c'était de continuer à montrer, d'autant plus avec le nouveau lieu ouvert là, il y a moins de 2 ans.
Alors, rue Saint-Martin,
rue Saint-Martin, hein. L'espace BIS. Et j'avais envie de continuer pour justement recevoir les auteurs dans de meilleures conditions, dans un cadre.
Faire des
aussi,
conférences.
Faire des rencontres, expo-vente. Mieux mettre l'objet en question, c'est de continuer à exposer la plupart de tous les champs de la bande dessinée.
Et ouais. Donc on va finir dans l'actualité, parce que quand même il y a l'actualité. C'est déjà les prochaines dédicaces. Alors, est-ce qu'il y a des dédicaces? Il y en a tous les mois déjà dans la librairie. Hein.
Eh bien là, nous terminons notre programmation et c'est pratiquement un auteur toutes les semaines. Voilà un petit peu. Il y a même des semaines où il y a 2 voire 3 auteurs dans la semaine. Bon, c'était peut-être un petit peu trop, mais on aura aussi pour Faites Lire une quinzaine d'auteurs avec beaucoup d'avant-premières.
Ah oui, alors justement, parlons-en. À Faites Lire, alors est-ce que déjà on peut avancer des noms d'auteurs qui vont être là?
Black Sad et puis cet auteur espagnol, donc Guarnido. Nous aurons aussi le lancement du nouveau Davodo, un auteur du Maine-et-Loire qui a dessiné Les Ignorants qui se passaient dans le monde viticole. Davodo prépare un album, c'est un auteur très engagé sur aussi tout l'enfouissement des déchets atomiques.
Voilà. Eh ben Samuel, merci beaucoup. Je pense
merci
que là,
Bertrand.
On a appris plein de choses aux gens. Même moi, j'ai appris des choses que je savais pas. Donc voilà. Et puis pour ceux qui connaissaient pas la librairie, je crois que ça va leur donner envie de passer par là.
Je l'espère. Voilà. Venez en tout cas.
Voilà, merci à toi. Et puis, on se retrouve autrement avec vous dans 15 jours pour une autre émission. Alors, avec qui, je ne sais pas encore. Ce sera la surprise.
Surprise. Voilà. Merci,
Bertrand. Au revoir.